Sa tendresse n'allait pas jusqu'à laisser déverrouiller la porte de sa chambre. Mais ce n'était pas un problème. Il ne se trouvait ni à demi-fou de douleur, ni en état de manque cette fois. Avec la méticulosité maniaque d'un écureuil faisant provision de noisettes, il avait récupéré 4 de ses épingles à cheveux, qu'il avait cachées sous le matelas en compagnie des gélules de Novril. Une fois sûr qu'elle était réellement partie et qu'elle ne traînait pas pour voir s'il ne se livrait pas à quelque idioterie, autre terme du vocabulaire vilquésien à ajouter à son lexique, il fit rouler le fauteuil jusqu'au lit, où il récupéra les épingles qu'il posa sur la planche, avec le pichet d'eau et la boîte de Kleenex de la table de nuit. Pousser le fauteuil avec la royale, en plus, n'était pas très difficile. Ses bras avaient retrouvé une bonne partie de leur force. Annie Wilkes aurait été étonnée de constater à quel point il était fort maintenant, et il espérait qu'en effet, elle le serait un jour. Comme machine à écrire, la royale était vraiment merdique. Mais en tant qu'appareil d'exercice pour la musculation, elle était parfaite. Il avait pris l'habitude de la soulever et de la reposer comme un poids chaque fois qu'il était cloué sur le fauteuil et que Annie ne traînait pas dans la chambre. 5 pompes sur 20 cm de haut, c'était tout ce qu'il arrivait à faire au début. Il pouvait maintenant en faire une 20aine sans interruption. Pas si mal. Si l'on songeait que cette saloperie pesait au bas mot 20 kilos. Il manipula la serrure avec l'une des épingles, 2 autres à la bouche comme une couturière cousant l'ourlet d'une robe. Il craignait que le fragment d'épingle resté dans la serrure ne le gênât, mais il ne le sentit pas. Il attrapa le pen dormant presque tout de suite et le repoussa, tournant en même temps le loquet. Il se demanda un instant si elle n'aurait pas posé un deuxième verrou à l'extérieur. Il avait essayé de paraître bien plus faible et malade qu'il ne l'était réellement, mais les soupçons d'une véritable paranoïaque étaient sans limite. Puis, la porte s'ouvrit. Il ressentit le même accès de culpabilité, le même besoin de faire vite. L'oreille tendue vers le bruit du moteur de la vieille Bessie, alors qu'elle n'était partie que depuis 3 quarts d'heure, il prit une poignée de Kleenex, la plongea dans le pichet d'eau et se pencha péniblement de côté, cette masse spongieuse à la main. Serrant les dents pour lutter contre la douleur, il entreprit de frotter la marque sur le côté droit de l'encadrement. À son immense soulagement, elle commença presque tout de suite à s'effacer. Les capuchons de moyeu du fauteuil roulant n'avaient pas écaillé la peinture, comme il le redoutait. Elle était simplement noircie. Il se redressa, fit pivoter le fauteuil et se plaça de manière à s'attaquer à la seconde marque. Quand il eut fait du mieux qu'il pouvait, il prit un peu de recul et étudia la porte, essayant de la voir avec le regard hyper soupçonneux d'Annie. Les marques étaient toujours là, mais estompées, presque invisibles. Il estima que cela suffisait comme ça. Du moins, il l'espéra. « Des abris anti-tornades, » dit-il, se passant la langue sur les lèvres avec un petit rire sec. « Quelle connerie, voisin et ami !» Il roula de nouveau jusqu'à la porte et regarda dans le couloir. Mais maintenant que les marques n'étaient plus visibles, il ne se sentait pas poussé à aller plus loin ni à tenter autre chose pour cette fois. Un autre jour, oui. Le moment venu, il le saurait. Écrire était ce dont il avait maintenant envie. Il referma la porte et le claquement de la serrure lui parut extrêmement bruyant. D'Afrique. L'oiseau venait d'Afrique. Mais il ne faut pas pleurer sur cet oiseau poli, car au bout d'un certain temps, il a oublié quelles étaient l'odeur de la savane à midi, le braiement des antilopes autour des trous d'eau et le parfum chargé d'acidité, des yéka-yéka, les arbres des grandes clairières au nord de la grande route. Au bout d'un certain temps, il a oublié la couleur écarlate du soleil mourant derrière le Kilimandjaro. Au bout d'un certain temps, il ne connaît que les couchers de soleil bourbeux et gris de pollution de Boston. C'est tout ce dont il se souvient. Et il ne veut se souvenir de rien d'autre. Au bout d'un certain temps, il ne veut même plus revenir en Afrique. Et si quelqu'un le ramenait là-bas et lui rendait la liberté, il irait se cacher dans un trou, terrorisé et souffrant, victime d'un mal du pays tendu vers deux directions inconnues, inéluctable, terrible. Et il y resterait jusqu'à ce qu'il se fasse tuer. « Oh, l'Afrique, oh merde !» dit-il d'une voix tremblante. Pleurant un peu, il fit avancer le fauteuil roulant jusqu'à la corbeille à papier et enfouit le tampon mouillé de Kleenex sous les feuilles qu'il y avait jetées en boule. Il se rendit ensuite à côté de la fenêtre et engagea une feuille vierge dans la royale. Et au fait, Polly, est-ce que le pare-choc de ta voiture ne dépasserait pas de la neige maintenant? N'est-il pas en train de dépasser, scintillant joyeusement au soleil, attendant simplement que passe un quidam, qui le remarque, pendant que tu restes assis ici, gâchant ce qui est peut-être ta dernière chance? L'œil dubitatif, il contemplait la feuille blanche dans la machine. Je ne vais pas arriver à écrire dans ces conditions. C'est fichu après ça. Mais rien n'avait jamais pu l'empêcher d'écrire, au fond. En théorie, la moindre chose aurait pu le déranger, mais en dépit de la réputation de fragilité de l'acte créatif, écrire avait été la chose la plus résistante et la plus durable de sa vie. Rien n'avait jamais pu polluer la source démente où il puisait ses rêves. Ni l'alcool, ni la drogue, ni la souffrance. Il s'élançait vers cette source maintenant comme un animal assoiffé qui trouve un marigot au crépuscule pour y boire à grands traits. Autre manière de dire qu'il avait retrouvé le trou dans le papier et qu'il s'était laissé tomber dedans, plein de gratitude. Le temps que Annie revint à la maison, il avait rédigé 5 pages. Au cours des 3 semaines suivantes, Paul Sheldon se sentit comme entouré d'une étrange paix chargée d'électricité. Il avait constamment la bouche sèche. Les bruits lui paraissaient trop forts. Il ressentait l'impression, certains jours, qu'il aurait pu tordre des petites cuillères rien qu'en les regardant. À d'autres, qu'il était sur le point d'éclater en sanglots hystériques. En dehors de cela, coupé de cette atmosphère et mis à part les démangeaisons tenaces à rendre fou de ses jambes qui guérissaient, son propre travail continuait. L'acte de sérénité. La pile de pages, à la droite de la Royale, s'élevait régulièrement. Avant cette étrange expérience, il avait considéré que son meilleur rendement était de 4 pages par jour. Pour Fast Cars, il avait été en général de 3 et de 2 seulement assez souvent avant l'ultime sprint final. Mais pendant cette période survoltée de 3 semaines qui s'acheva lors de la pluie torrentielle du 15 avril, Paul produisit une moyenne de 12 pages par jour, 7 le matin et 5 dans la soirée. Si quelqu'un, n'importe qui, lui avait suggéré dans sa vie antérieure, c'était ainsi qu'il y pensait maintenant sans même s'en rendre compte, qu'il aurait pu travailler à ce rythme, Paul lui aurait ri au nez. Lorsque la pluie commença à tomber, 267 pages du Retour de Misery s'empilaient à côté de la machine. Un premier jet, certes. Mais en le parcourant, il le trouva d'une propreté stupéfiante pour un brouillon. Cela tenait en partie à ce qu'il menait une vie d'une régularité de métronome. Plus de longues nuits vaseuses à passer d'un bar à l'autre, suivies de longues journées vaseuses à boire du café, du jus d'orange et avaler des tablettes de vitamine C. Des journées pendant lesquelles il détournait les yeux avec un frisson, si ceux-ci tombaient par hasard sur la machine à écrire. Plus de réveils comateux à côté de quelques blondes ou rousses, plantureuses ramassées il ne savait plus où la veille. Une Paulette qui d'ordinaire ressemblait à une reine à minuit et à une poufiasse le lendemain matin. Quant aux cigarettes, terminé. Il lui en avait demandé une fois, d'une voix timide, pour voir. Et il avait vu. Elle lui avait lancé un regard tellement noir qu'il lui avait aussitôt dit de ne plus y penser. Il était monsieur propre. Aucune mauvaise habitude. Mis à part les gélules bourrées de codéine, dis donc, nous n'avons encore rien fait à ce propos, il me semble. Paul. Pas de distraction. Voilà ce que je suis, s'était-il dit une fois. Le seul moine au monde à se camer. Réveil à 7 heures. 2 Novrils avec le jus de fruits. À 8 heures, petit déjeuner au lit. 1 seul œuf, poché ou brouillé, 3 jours par semaine. Les 4 autres jours, des céréales riches en fibres. Ensuite, en place dans le fauteuil roulant, direction la fenêtre. Saut dans le trou au centre du papier. Atterrissage au 19e siècle. L'époque où les hommes étaient des hommes et où les femmes portaient des robes à tournure. Déjeuner, sieste, 2e séance, parfois pour corriger, parfois simplement pour lire. Elle possédait tout ce que Somerset Maugham avait pu écrire. Paul se demanda une fois si elle n'aurait pas par hasard le premier roman de John Fowles sur ses étagères et conclut qu'il serait plus prudent de ne pas poser la question. Et Paul avait entrepris la longue randonnée à travers les 20 et quelques volumes de l'œuvre du maître, fasciné par son talent pour saisir les temps forts d'une histoire. Avec les années, Paul avait fini par se résigner à accepter de ne pouvoir lire les histoires comme lorsqu'il était enfant. En devenant lui-même écrivain, il s'était condamné à ne plus faire que de la lecture dissection. Maugham non seulement commença par le séduire, mais le fit devenir de nouveau un enfant, ce qui était merveilleux. À 5 heures, elle lui servait un dîner léger, et à 7 heures, elle faisait rouler la télévision jusque dans la chambre et ils regardaient ensemble. MASH et WRKP in Cincinnati. Après quoi, il se remettait à écrire. Et finalement, il faisait lentement rouler son fauteuil. Il aurait pu aller bien plus vite, mais c'était beaucoup mieux que Annie l'ignora, jusqu'au lit. Elle l'entendait, venait, et l'aidait à s'allonger dans les draps. Médicament, boum, soufflait comme une chandelle. Et le jour suivant se déroulait exactement de la même manière. Et le suivant. Et le suivant. Son mode de vie expliquait donc en partie sa fécondité, mais Annie elle-même jouait un rôle plus important encore à cet égard. Après tout, c'était l'unique et hésitante suggestion faite par elle à propos de la piqûre d'abeille qui avait donné forme au livre. Qui lui avait fait retrouver son besoin de renouer avec Misery, alors qu'il était persuadé d'en avoir définitivement terminé avec elle. Une chose dont il avait été bien certain dès le début, c'était l'impossibilité d'écrire un retour de Misery. Il s'était attaché uniquement au moyen de sortir cette salope de sa tombe sans tricher, avant que Annie ne décidât de l'inspirer. Les questions secondaires, comme le sujet supposé du livre, devaient attendre. Pendant les 2 jours qui suivirent la descente en ville d'Annie pour payer ses impôts en retard, Paul s'efforça d'oublier son échec, de n'avoir su saisir ce qui aurait pu être une occasion en or de s'échapper en concentrant toute son énergie sur un point. Comment ramener Misery dans le cottage de Madame Ramage. La ramener au domicile de Geoffrey était exclu. Les domestiques, en particulier Tyler, son maître d'hôtel avide de potins, ne pourraient s'empêcher de jaser. Il devait aussi justifier l'amnésie absolue provoquée par le choc d'avoir été enterrée vive. Amnésie ? Merde. C'est à peine si elle pouvait parler. Plutôt un soulagement, vu le style gnangnan habituel de Misery. Bon, et ensuite ? Cette salope était sortie de sa tombe, mais où en était l'histoire ? Geoffrey et Madame Ramage devaient-ils dire à Yann que Misery était encore en vie ? Paul n'en avait pas l'impression, mais il n'était pas sûr de lui. Ne pas être sûr des choses, il le savait, était un recoin sans charme du purgatoire réservé aux écrivains qui fonçaient sans très bien savoir où ils se rendaient. Non, pas Yann, songeait-il le regard perdu sur la grange. Le médecin, pour commencer, ce vieux trou du cul avec tous ses N dans son nom, Shinebone. L'évocation du médecin rappela à Paul le commentaire d'Annie sur les piqûres d'abeilles. Ce n'était pas la première fois qu'il y repensait. Cette suggestion lui revenait à l'esprit au moment les plus inattendus. Une personne sur 12 ? Mais ça ne pouvait pas marcher. Deux femmes sans lien entre elles, sinon de voisinage, allergiques toutes les deux de cette manière rarissime. 3 jours après la grande scène paiement des arriérages d'Annie Wilkes, Paul somnolait pendant sa sieste quotidienne lorsque les types du fond des ateliers de chaudronnerie se mirent à s'agiter, et sérieusement. Cette fois-ci, ce ne fut pas un pétard mouillé qu'ils lancèrent, mais une vraie bombe atomique. Il s'assit tout droit dans le lit sans même prendre conscience de l'élancement douloureux qui monta dans ses jambes. « Annie » brailla-t-il. « Annie, venez vite !» Il l'entendit dévaler l'escalier 4 à 4 et courir dans le couloir. Ses yeux, agrandis, avaient une expression de frayeur lorsqu'elle fit irruption dans la chambre. « Qu'est-ce qui ne va pas, Paul ? Des crampes ? Est-ce... Non, 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 non » répondit-il. Mais il mentait car son esprit était saisi de crampes. « Non, Annie, je suis désolé de vous avoir fait peur, mais il faut m'aider à me mettre dans le fauteuil. Bon Dieu de merde, je la tiens !» Le grand mot lui échappa avant qu'il y pensât, mais cette fois-ci, il fut sans conséquence. Elle le contemplait avec respect et une sorte de frayeur émerveillée dans le regard. Elle avait devant elle la version laïque du feu de la Pentecôte brûlant sous ses yeux. « Bien sûr, Paul. » Elle l'installa dans le fauteuil aussi rapidement qu'elle put. Elle voulut le rouler auprès de la fenêtre, mais Paul secoua la tête d'un geste impatient. « Ça ne prendra pas longtemps, dit-il, mais c'est très important. C'est à propos du livre, c'est le livre. Taisez-vous, ne me parlez pas !» Ignorant la machine à écrire, il ne s'en servait jamais pour prendre des notes. Il prit l'un des stylos à billes et couvrit une unique feuille de papier d'un griffonnage que probablement personne en dehors de lui n'aurait pu lire. Elles ont un lien. Il s'agissait bien d'abeilles. Et elles en ont été affectées de la même manière précisément parce qu'elles sont parentes. Misery est une orpheline. Et devinez, la gosse Evelyn Hyde se trouve être la sœur de Misery. Ou peut-être sa demi-sœur. Meilleur ça, sans doute. Qui, sans doute, le premier ? Shiny ? Non. Shiny est un crétin. Madame Ramage. Elle peut aller voir la mère de C.E.H. et lui... Il était maintenant frappé par une idée tellement délicieuse. Au moins dans le cadre de l'intrigue du livre, qu'il leva les yeux, bouche ouverte, l'œil agrandi. « Paul ?» fit Annie anxieuse. Elle savait, murmura Paul. Bien sûr, elle savait. Ou du moins, elle le soupçonnait fortement. Mais... Sur quoi, il revint à son griffonnage. Elle, Madame R, comprend tout de suite que Madame E.H. doit savoir que M a un lien de parenté avec sa fille. Par les cheveux, un truc comme ça. Ne pas oublier que la mère de E.H. commence à apparaître comme un personnage important. Travailler dessus. Madame R commence à comprendre que Madame E.H. pouvait même avoir su que Misery avait été enterrée vive. Crotte de bique, j'adore. Supposons que la vieille dame ait deviné que Misery était la conséquence de ses frasques de jeunesse et... Il reposa le stylo, regarda la feuille de papier, reprit le stylo et écrivit encore quelques lignes. Trois points nécessaires. 1. Comment réagit la mère E.H. au soupçon de Madame R. Soit elle est prise d'une envie de meurtre, soit d'une trouille à en dégueuler. Je préfère la trouille, mais je pense que l'envie de meurtre plairait davantage à A.W. Alors, OK pour le meurtre. 2. Comment Yann s'inscrit-il dans tout ça? 3. L'amnésie de Misery. Oh, et encore un truc pour se faire les dents. Est-ce que Misery s'aperçoit que la mère a continué à vivre en sachant que non seulement une de ses filles avait été enterrée vive, mais qu'une autre l'avait peut-être été aussi et qu'elle n'avait rien dit? Pourquoi pas? Vous pouvez m'aider à me remettre au lit maintenant, si vous voulez, dit enfin Paul. Si j'ai eu l'air un peu fou, je suis désolé. C'était simplement l'excitation. Ça va, Paul. Ça va bien. Il y avait encore de l'effroi dans sa voix. Depuis lors, il avait abattu un travail fabuleux. Annie avait raison. L'histoire devenait beaucoup plus sinistre que les autres livres de la série des Miséries. Le premier chapitre, loin d'être un accident, ne faisait qu'annoncer les suivants. Mais son scénario était aussi infiniment plus riche que tous ceux de ses précédents romans et les personnages plus vivants. Les trois derniers Miséries n'avaient été que de simples récits d'aventure, renforcés de scènes érotiques soigneusement dosées pour chatouiller ses lectrices. En revanche, ce livre-ci, commençait-il à comprendre, était un véritable roman gothique, et l'intrigue y prenait le pas sur les situations. Des défis lui étaient constamment jetés. Ce n'était plus simplement une question de « sauras-tu ?» pour commencer le livre. Pour la première fois depuis des années, c'était « sauras-tu ?» presque chaque jour. Et il s'apercevait que oui, il savait. Puis, la pluie arriva et les choses changèrent. Entre le 8 et le 14 avril, ils bénéficièrent d'un temps constamment radieux. Le soleil flamboyait dans un ciel sans nuages et parfois la température dépassait 16 degrés en milieu de journée. Des taches brunes commencèrent à apparaître dans le champ derrière la grange impeccable d'Annie. Paul s'enfouissait dans son travail pour ne pas avoir à penser à sa voiture dont la découverte devait avoir eu lieu depuis longtemps. Son écriture n'en souffrait pas, contrairement à son humeur. Il avait de plus en plus l'impression de vivre dans un nuage d'orage et de respirer une atmosphère chargée jusqu'à la gueule d'électricité statique. Chaque fois que la Camaro surgissait dans sa tête, il battait le rappel de sa police mentale et le souvenir repartait pieds et poings liés dans ses oubliettes cervicales. Le problème était la propension qu'avait cette saloperie à s'évader et à réapparaître sous une forme ou une autre. Il rêva une nuit que M. Rancho Grande rendait de nouveau visite à Annie Wilkes. Il descendait de sa Chevrolet Bel Air, impeccable, tenant un morceau de pare-choc de la Camaro dans une main, le volant de l'autre. « Cela vous appartient-il » demandait-il à Annie. Paul s'était réveillé dans un état d'esprit rien de moins que joyeux. Annie, de son côté, n'avait jamais été d'aussi bonne humeur qu'elle le fut pendant cette semaine ensoleillée de printemps précoce. Elle fit de grands nettoyages, elle se lança dans des recettes de cuisine compliquées. Bizarrement, toutefois, tout ce qu'elle préparait avait un même goût de cuisine industrielle, comme si le fait d'avoir mangé dans des cafétérias d'hôpital pendant des années avait d'une certaine manière perverti les quelques dons culinaires qu'elle aurait pu avoir. Chaque après-midi, elle emmitouflait Paul dans une grosse couverture bleue, lui enfonçait une casquette de chasse verte sur la tête et le poussait jusque sous le porche à l'arrière de la maison. Pour ses sorties, il emportait un Mône avec lui, mais il lisait rarement. Se trouver de nouveau à l'extérieur était une expérience trop vaste pour pouvoir se concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Il se contentait donc de rester assis à humer l'air frais et doux qui le changeait de l'atmosphère confinée de la chambre avec ses vagues relents d'hôpital, à écouter le léger tintinabulement des gouttes d'eau tombant des stalactites de glace, et à observer l'ombre des rares nuages glisser avec une régulière et majestueuse lenteur sur les champs où fondait la neige. C'était ce qu'il y avait de mieux. Annie chantonnait. Elle avait la voix juste, mais un timbre bizarrement creux. Elle pouffait comme une enfant aux gags de MASH et de WRKP, riant particulièrement fort aux plaisanteries légèrement ratées, la plupart dans le cas de celle de VRKP. Infatigable, elle inscrivait tous les N minuscules, N majuscules manquants, pendant que Paul finissait les chapitres 9 et 10. Puis arriva le 15. La journée commença par une aube morne de nuages, chassée par le vent. Et Annie changea. Cela tenait peut-être, se dit Paul, à la chute du baromètre. Une explication qui en valait une autre. Elle ne fit sa première apparition avec les médicaments qu'à 9 heures. Déjà, il souffrait terriblement de ne pas les avoir pris, au point qu'il envisageait sérieusement d'avoir recours à sa réserve secrète. Il n'eut aucun petit déjeuner, seulement les gélules. Elle arriva encore vêtue de sa robe de chambre rose, matelassée. Il remarqua, avec une inquiétude grandissante, qu'elle avait des marques rouges sur les joues et les bras, comme celles de coups de fouet. Il aperçut aussi des éclaboussures visqueuses de nourriture sur la robe de chambre, et elle n'avait réussi à enfiler qu'une seule de ses pantoufles. Pofchi, pofchi, faisaient les pieds d'Annie tandis qu'elle s'approchait de lui. Pofchi, pofchi, pofchi. Les cheveux pendaient en mèches sur son visage. Elle avait le regard terne. Tenez, fit-elle en lui lançant les gélules. Elle avait également les mains couvertes de débris divers, des trucs rouges, des trucs bruns, des trucs blancs qui lui collaient à la peau. Paul n'avait aucune idée de ce que c'était. Il valait peut-être mieux ne pas le savoir. Pofchi. Pofch, pofch. Annie ? Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas. Elle paraissait encore plus massive ainsi, les épaules gonflant la robe de chambre rose, les cheveux comme un casque qui aurait beaucoup servi. La femme de Cro-Magnon jetant un coup d'œil à l'entrée de sa caverne. Est-ce que ça va bien, Annie ? « Non, » répondit-elle d'un ton indifférent, se tournant cette fois. Elle lui adressa un regard toujours aussi terne et se pinça la lèvre inférieure entre le pouce et l'index de la main droite. Puis elle la tira et la tordit, tout en pinçant en même temps à l'intérieur. Du sang commença à couler entre la lèvre et la gencive, puis déborda et dégoulina le long de son menton. Elle fit demi-tour et sortit sans ajouter un mot avant même que Paul, stupéfait, eut le temps de se convaincre qu'il l'avait bien vue faire ce qu'elle avait fait. Elle ferma ensuite la porte et la verrouilla. Il entendit les pauvres chis s'éloigner dans le couloir vers le salon, puis le craquement de sa chaise préférée lorsqu'elle s'assit. Rien d'autre, pas de télé. Elle ne chantonna pas, pas de tintement de vaisselle ou d'argenterie. Non, elle se contentait de rester assise là, en allant très mal. Au bout d'un moment, il y eut un bruit. Il ne se répéta pas, mais il était parfaitement identifiable. Une claque. Une claque sacrément vigoureuse. Et étant donné qu'il se trouvait ici dans la chambre fermée à clé et elle de l'autre côté de la porte dans le salon, nul besoin d'être Sherlock Holmes pour deviner qu'elle s'était giflée elle-même. Fort, très fort, vu le bruit. Il la revit s'étirer la lèvre, enfoncer ses doigts aux ongles courts dans la chair rose et sensible de la muqueuse. Il se souvint tout à coup de notes sur les maladies mentales qu'il avait prises pour le premier des Misères, dont une bonne partie de l'action se déroulait à l'hôpital Bedlam de Londres. Misères s'y était retrouvé, interné de force suite aux intrigues d'une méchante femme maladivement jalouse. Lorsqu'une personne maniaco-dépressive commence à sombrer dans une période de profonde dépression, avait-il écrit, on compte parmi les symptômes de cet état des actes d'autopunition comme des claques, des coups de poing, des pincements, des brûlures avec des cigarettes, etc. Il eut soudain très, très peur.